À leur réveil, ils virent qu'un frais soleil inondait la grande cour et le plancher de l'alcôve. Des lambeaux de nuages flottaient en hauteur, poussés par un fort vent d'est. Barbe-Bois ne se voyait nulle part, mais tandis que Merry et Pipin se baignaient dans le bassin près de l'arche, ils l'entendirent fredonner et chanter en remontant l'allée bordée d'arbres.
« Ouh, oh, bonjour, Merry et Pipin !»
s'écria-t-il en les voyant d'une voix tonitruante.
« Vous dormez longtemps. J'ai déjà parcouru des centaines de foulées aujourd'hui. Maintenant, buvons un peu avant d'aller au cercle des Ents. »
Puisant dans une jarre de pierre, mais non celle de la veille, il leur versa deux bols pleins. Le goût n'était pas le même, plus terreux et plus riche, plus consistant aussi, comme de la vraie nourriture, pour ainsi dire. Tandis que les hobbits assis au bord du lit buvaient et grignotaient quelques morceaux de gâteau elfique, non qu'ils aient eu vraiment faim, mais ils considéraient qu'un petit déjeuner ne pouvait se passer de nourriture, Barbe-Bois se tenait debout, fredonnant en entique, en elfique ou en quelque autre langue étrange et regardant au ciel. Pipin hasarda une question.
« Où se trouve le cercle des Ents ? »
demanda-t-il.
« Ouh, hein ? Le cercle des Ents ? »
dit Barbe-Bois se retournant.
« Ce n'est pas un endroit, c'est une réunion d'Ents, ce qui n'arrive pas souvent de nos jours. Mais je me suis arrangé pour qu'un nombre convenable me promette de venir. Nous nous rencontrerons là où nous nous sommes toujours réunis, Combelle Close, comme disent les hommes. C'est assez loin au sud d'ici. Nous devons y être avant midi. »
Ils se mirent en route avant peu. Barbe-Bois prit les hobbits dans ses bras, comme le jour précédent. À l'entrée de la cour, il tourna à droite, enjamba le ruisseau et partit vers le sud, au pied de hautes pentes raboteuses où les arbres étaient rares. Au-dessus, les hobbits discernaient des fourrés de bouleaux et de sorbiers, et plus haut encore, des pinèdes sombres et escarpées. Bientôt, Barbe-Bois se détourna quelque peu des collines pour plonger dans de profonds bosquets où les arbres étaient plus massifs, plus hauts et plus touffus que tous ceux qu'ils avaient jamais vus. Ils retrouvèrent vaguement cette impression d'étouffement qu'ils avaient ressentie à leur arrivée à Fangorn, mais elle ne tarda pas à se dissiper. Barbe-Bois ne leur parlait pas. Il fredonnait pour lui-même d'une voix profonde et pensive, mais Merry et Pipin ne saisissaient aucun mot proprement dit. Cela ressemblait à
« boum, boum, rom, boum, bourar, boum, boum, darar, boum, boum, darar, boum »
et ainsi de suite, avec de continuels changements de hauteur et de rythme. De temps à autre, il croyait entendre une réponse, un bourdonnement ou un frisli qui semblait émaner du sol ou des branches au-dessus de leur tête, ou peut-être des fûts des arbres. Mais Barbe-Bois ne s'arrêtait pas et ne tournait jamais la tête ni d'un côté ni de l'autre. Ils avançaient depuis un long moment. Pipin avait tenté de calculer les foulées d'Ents, mais il avait perdu le compte à environ 3000. Quand Barbe-Bois se mit à ralentir le pas. Soudain, il s'arrêta, posa les hobbits et porta les mains à sa bouche arrondie de manière à former un tube creux. Puis, il souffla ou bien appela à travers. Un grand « houm, houm » retentit dans les bois, tel un corps à la voix profonde, comme répercuté par les arbres. Au loin, de plusieurs directions à la fois, monta un « houm, houm, houm » très similaire, qui n'était pas un écho, mais une réponse. Barbe-Bois jucha alors Merry et Pipin sur ses épaules et se remit en marche, lançant de temps en temps un nouvel appel, et chaque fois, les réponses devenaient plus fortes et plus proches. Ainsi, ils parvinrent enfin à ce qui avait tout l'air d'un mur impénétrable, une rangée d'arbres sombres à feuilles persistantes, d'une espèce que les hobbits n'avaient jamais vue. Leurs branches partaient des racines mêmes, et elles étaient chargées de feuilles sombres et vernissées comme du houx sans épines. Elle portait de nombreuses inflorescences en forme d'épis, droites et raides, où luisaient de gros bourgeons de couleur olive. Contournant par la gauche cette énorme haie, Barbe-Bois parvint en quelques enjambées à une entrée étroite. Elle était traversée par un sentier usé qui dévalait soudain par une longue pente abrupte. Les hobbits se virent alors descendre dans une vaste cuvette, d'une rondeur presque parfaite, très profonde, mais également très étendue, couronnée au pourtour par la haute haie d'arbres sombres. Son intérieur, lisse et herbeux, était dénué d'arbres, hormis trois magnifiques bouleaux argentés de taille majestueuse dressés au fond de la cuvette. Deux autres sentiers descendaient dans la combe, l'un venant de l'ouest et l'autre de l'est. Plusieurs Ents étaient déjà sur place. D'autres arrivaient par les sentiers de part et d'autre et quelques-uns suivaient à présent Barbe-Bois. Les hobbits les regardèrent approcher. Ils avaient pensé rencontrer un groupe de créatures semblables à Barbe-Bois, comme un hobbit ressemble à un autre hobbit, du moins aux yeux d'un étranger, et ils étaient fort étonnés de constater qu'il n'en était rien. Les Ents étaient aussi différents les uns des autres que pouvaient l'être des arbres entre eux. Aussi différents pour certains que deux arbres du même nom, mais qui n'auraient pas connu la même croissance ni la même histoire. Aussi dissemblables pour d'autres que deux arbres d'espèces différentes comme le sont bouleau et hêtre ou chêne et sapin. Il y avait là quelques Ents plus âgés, noueux et barbus comme des arbres en bonne santé, mais néanmoins anciens, bien qu'aucun n'eût paru aussi ancien que Barbe-Bois. Ainsi que des Ents grands et forts, la tige bien faite, la peau lisse, comme des arbres sylvestres dans la force de l'âge. Mais il n'y avait pas de jeunes Ents, pas de sillons. En tout, ils étaient environ deux douzaines à occuper le vaste plancher herbeux de la combe, et d'autres y affluaient en nombre comparable. Merry et Pipin furent surtout frappés au début par la diversité qu'ils voyaient, la multiplicité des formes et des couleurs, les différentes tailles, circonférences et grandeurs, et la longueur des bras et des jambes, de même que par le nombre d'orteils et de doigts, qui pouvaient aller de 3 à 9. Quelques-uns accusaient une certaine parenté avec Barbe-Bois et leur rappelaient des hêtres ou des chênes, mais il y avait d'autres espèces. Certains faisaient penser à des châtaigniers, des Ents à la peau brune, pourvus de grandes mains aux doigts écartés et de jambes courtes et épaisses. Certains rappelaient le frêne, de grands Ents droits et gris aux longues jambes, aux mains dotées de doigts multiples. D'autres le sapin, les plus grands Ents. Et d'autres encore le bouleau, le sorbier et le tilleul. Mais quand tous s'assemblèrent autour de Barbe-Bois, inclinant légèrement la tête, murmurant de leur voix lente et musicale et posant un regard long et attentif sur les étrangers, les hobbits furent à même de constater qu'ils étaient tous de la même famille et qu'ils avaient les mêmes yeux. Pas tous aussi âgés ni aussi profonds que ceux de Barbe-Bois, mais tous avec cette même expression lente, songeuse et soutenue, et cette même étincelle verte. Dès que toute la compagnie fut assemblée, réunie en un large cercle autour de Barbe-Bois, s'amorça une conversation pour le moins curieuse et inintelligible. Les Ents se mirent à murmurer lentement, se joignant au chœur un à un, jusqu'à ce que tous fussent à chanter ensemble en un long rythme qui montait et retombait, tantôt s'élevant d'un côté de l'anneau, tantôt faiblissant là et s'enflant comme un tonnerre de l'autre côté. Sans pouvoir saisir ni comprendre aucun des mots, il devait être en langue entique, se dit-il, Pipin trouva le son très agréable à entendre au début. Mais peu à peu, son attention se relâcha. Après un long moment, alors que le chant ne montrait aucun signe de ralentissement, il vint à se demander, la langue entique étant si peu hâtive, s'ils avaient même passé le stade des salutations, et, dans l'éventualité où Barbe-Bois devait faire l'appel, combien de jours il faudrait pour chanter tous leurs noms.
« Je me demande comment on dit oui ou non en entique, » pensa-t-il.
Il bâilla. Barbe-Bois eut aussitôt conscience de lui.
« Et mon Pipin, »
dit-il, et tous les autres Ents cessèrent leur chant.
Vous êtes des gens hâtifs, j'oubliais, et de toute manière, il est lassant d'écouter des paroles que l'on ne peut comprendre. Vous pouvez descendre maintenant. J'ai donné vos noms au cercle des Ents, et ils vous ont vu et ils ont convenu que vous n'êtes pas des orques, et qu'un nouveau vers doit être ajouté dans les listes anciennes. Nous n'en sommes pas plus loin, mais c'est assez expéditif pour un cercle d'Ents. Allez vous promener dans la combe, vous et Mary, si le cœur vous en dit. Il y a une source avec de la bonne eau, si vous avez besoin de vous rafraîchir, là-bas, sur le versant nord. Il reste encore à dire certains mots avant que le cercle ne tienne vraiment séance. Je viendrai vous trouver plus tard pour vous dire comment progressent les choses. »
Il déposa les hobbits. Avant de s'éloigner, ils s'inclinèrent profondément. Cette prouesse amusa beaucoup les Ents, s'il fallait en croire le ton de leurs murmures et l'étincelle dans leurs yeux. Mais ils retournèrent bientôt à leurs propres affaires. Mary et Pipin gravirent le sentier venant de l'ouest et regardèrent par l'ouverture de la grande haie. De longues pentes boisées s'élevaient là-bas, à partir du bord de la combe. Et loin au-dessus d'elles, au-delà des sapins coiffant la dernière crête, se dressait, blanche et découpée, la cime d'une haute montagne. Au sud, sur leur gauche, ils pouvaient voir plonger la forêt dans des lointains grisâtres. Là, à l'horizon, se devinait une pâle lueur verte que Mary pensa être un aperçu des plaines du Rohan.
« Je me demande où c'est, Isengard, » dit Pipin. « Je ne sais pas très bien où nous sommes, » dit Mary. « Mais cette cime est sans doute le Mécédras. Et pour autant que je me souvienne, l'anneau d'Isengard se trouve dans une fourche ou une profonde enclave à l'extrémité de la chaîne de montagne. Sans doute se cache-t-il derrière cette grande crête. On dirait de la fumée ou de la brume là-bas, à gauche du sommet, tu ne trouves pas ?»« À quoi ressemble Isengard ?» dit Pipin. « Je me demande bien comment les Ents peuvent s'y opposer de toute façon. »«
Moi aussi, » dit Mary.
« Isengard est une sorte d'anneau de rocher ou de colline, je pense, avec un espace plat à l'intérieur et un îlot ou un piton rocheux au centre appelé Orthanc. La tour de Saruman se trouve dessus. Il y a une porte, peut-être plus d'une, dans le mur d'enceinte et je crois qu'un cours d'eau la traverse. Il est issu des montagnes et il poursuit son cours à travers la brèche du Rohan. Ce n'est pas le genre d'endroit auquel des Ents peuvent facilement s'attaquer, il me semble. » Mais ces Ents me font une drôle d'impression. Je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi inoffensifs, ni aussi... Enfin, aussi comiques qu'ils en ont l'air. Ils ont un air bizarre, lent et patient, presque triste. Et pourtant, je crois qu'ils pourraient se réveiller. Si cela se produisait, je ne voudrais pas être dans l'autre camp.
Oui, dit Pipin, je vois ce que tu veux dire. Il pourrait être tout aussi différent qu'une vieille vache assise à ruminer pensivement et un taureau qui charge. Et le changement pourrait survenir tout à coup. Je me demande si Barbe-Bois parviendra à les réveiller. Je suis bien sûr qu'il entend essayer, mais il n'aime pas qu'on les réveille. Barbe-Bois s'est un peu échauffé lui-même hier soir, mais il a tout refoulé depuis. »
Les hobbits se tournèrent de nouveau vers la combe. Les voix des Ents continuaient de s'élever et de retomber au sein de l'assemblée. Le soleil était monté assez haut pour regarder par-dessus la haute haie. Il brillait à la cime des bouleaux et ses rayons jaunes et doux baignaient tout le versant nord de la combe. Là se trouvait une petite fontaine d'eau scintillante. Ils longèrent le bord de la grande cuvette au pied des arbres Saint-Pervirant, quel plaisir que de sentir de nouveau l'herbe fraîche à leurs pieds sans avoir à se presser, puis ils descendirent jusqu'à l'eau bouillonnante. Ils burent un peu. Une gorgée pure d'un froid mordant. Puis, s'asseyant sur une pierre moussue, ils observèrent les taches de soleil sur l'herbe et l'ombre des nuages voyageurs glissant sur le sol de la combe. Le murmure des Ents se poursuivait. Ils avaient l'impression de se trouver en un lieu étrange et reculé, extérieur à leur monde, loin de tout ce qui leur était jamais arrivé. Ils se sentirent tout à coup nostalgiques des voix et des visages de leurs compagnons, en particulier Frodo et Sam, et aussi l'arpenteur. Enfin, les voix d'Ent se turent, et levant la tête, ils virent Barbe-Bois s'avancer vers eux en compagnie d'un autre Ent.
Me revoici, dit Barbe-Bois. Vous devenez las ou peut-être impatient, hein? Eh bien, vous ne devez pas vous impatienter tout de suite, j'en ai peur. La première étape est maintenant derrière nous, mais il me reste encore à tout réexpliquer pour ceux qui vivent loin d'ici, loin d'Isengard, et pour ceux que je n'ai pas pu visiter avant la réunion du cercle. Après, il faudra décider que faire. Pour des Ents, cependant, décider est moins long que de passer en revue tous les faits et les événements qu'il s'agit de considérer. Reste qu'il n'y a pas à se faire d'illusions. Nous serons ici encore longtemps, au moins 2 jours fort probablement. Aussi vous ai-je trouvé un compagnon. Il a une maison d'Ent non loin d'ici. Son nom elfique est Bregalad. Il dit qu'il a déjà pris sa décision et qu'il lui est inutile de demeurer plus longtemps au cercle. Il s'apparente à ce que nous avons de plus proche d'un Ent hâtif. Vous devriez vous entendre à merveille. Au revoir.
Barbe-Bois fit demi-tour et les laissa. Bregalad resta quelque temps à étudier les hobbits d'un air grave, et eux le dévisagèrent, se demandant à quel moment apparaîtraient les premiers signes de hâte. Il était grand et semblait faire partie des plus jeunes Ents. Ses bras et ses jambes étaient couverts d'une peau lisse et luisante. Il avait les lèvres rouges vifs et les cheveux gris vert. Il pouvait fléchir sa taille et se balancer comme un arbre élancé sous l'effet du vent. Il parla enfin, et sa voix, quoique sonore, était plus haute et plus claire que celle de Barbe-Bois.
« Ah, mes amis, allons-nous promener ?» dit-il. « Je suis Bregalad, c'est-à-dire prime branche dans votre langue, mais ce n'est qu'un surnom, évidemment. On m'appelle ainsi depuis que j'ai répondu « oui » à un aîné avant qu'il ait terminé sa question. » Je bois aussi très rapidement, et je sors tandis que d'autres se rincent encore la barbe. Venez avec moi. »
Il abaissa 2 bras parfaitement galbés et tendit à chacun des hobbits une main au long doigt. Toute cette journée, ils se promenèrent dans les bois avec lui, chantant et riant. Car Prime Branche riait souvent. Il riait quand le soleil sortait de derrière un nuage. Il riait quand il tombait sur un ruisseau ou une source. Alors, il se baissait et s'aspergeait les pieds et la tête. Il riait parfois d'un son ou d'un murmure entendu parmi les arbres. Chaque fois qu'il apercevait un sorbier, il s'arrêtait un moment, bras écartés, et chantait, et tout en chantant, il se balançait. À la tombée de la nuit, il les amena à sa maison d'Ent, tout au plus une pierre couverte de mousse, placée au milieu d'un espace gazonné à l'ombre d'un talus vert. Des sorbiers poussaient tout autour, arrangés en cercle, et il y avait de l'eau, comme dans toute maison d'Ent, une source bouillonnante sortant du talus. Ils restèrent un moment à bavarder pendant que les ténèbres tombaient sur la forêt. On entendait non loin les voix du cercle des Ents qui continuaient de palabrer. Mais elles semblaient à présent plus profondes et moins neutres, et une voix forte culminait de temps à autre en une musique claire et accélérée, tandis que les autres s'évanouissaient. Mais auprès d'eux, Bregalad parlait doucement dans leur langue, chuchotant presque, et ils apprirent qu'il était l'un des gens de Vivecors et que le pays où habitaient les siens avait été ravagé. Chose qui, aux yeux des hobbits, suffisait amplement à expliquer sa hâte, du moins en matière d'orques.
« Il y avait des sorbiers chez moi, » dit Bregalad d'une voix douce et triste. « Des sorbiers qui avaient pris racine quand j'étais Entige il y a maintes et maintes années dans la quiétude du monde. Les plus vieux avaient été plantés par les Ents pour faire plaisir aux Ents-femmes. Mais elles s'étaient contentées de sourire, disant savoir où trouver des fleurs plus blanches et des fruits plus généreux. Pourtant, de tous les arbres de cette espèce, le peuple de la rose, il n'en est aucun d'aussi beau à mes yeux. Et ces arbres poussèrent et poussèrent jusqu'à ce que l'ombrage de chacun fût comme une halle de verdure, et leurs fruits rouges à l'automne un fardeau, une splendeur et un prodige. Les oiseaux avaient coutume de s'assembler à cet endroit. J'aime les oiseaux, même quand ils piaillent, et le sorbier a tant à donner. Mais les oiseaux devinrent bientôt hostiles et avides, déchirant les arbres et jetant les fruits au sol sans les manger. Puis les orques vinrent avec des haches et coupèrent mes arbres. J'accourus, je les appelai par leur nom au long, mais ils n'ont pas frémi, ni entendu ni répondu. Ils étaient étendus, morts. « Oh, Orofarne lasemista carnimirie, qu'ils étaient blancs, ô beau sorbier, tes bourgeons printaniers. J'admirais tant, ô mon sorbier, par les beaux jours d'été, ton teint si clair, tes doigts si verts, ta voix si fraîche et douce, et sur ton faîte, sur ta tête, une couronne rousse. Ô sorbier mort, ton maigre corps est gris et défeuillé. Ton chant s'est-tu, ta voix n'est plus, mais n'est pas oubliée. Ô orofarne lacemista carnimirie.
Les hobbits s'endormirent au son du doux chantonnement de Bregalad, qui semblait pleurer en plusieurs langues la chute d'arbres qu'il avait aimés.